Résonance, Alain Goudard, bonjour et bienvenue à tous. Résonance, un grand amphithéâtre à ciel ouvert, à l'écoute des nouveaux vents de la création. Résonance part sur les routes des régions pour aller à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques pour d'une part mieux parler et d'autre part confier la parole aux porteurs de ces initiatives. Aujourd'hui, premier volet d'une série de 3 émissions qui nous conduisent dans le département de l'Ardèche. À travers cette série d'émissions, nous vous proposons de porter un regard sur la place et les enjeux de la culture au sein des territoires, c'est-à-dire observer et véritablement regarder ce champ qui est à l'intersection de 2 espaces habituellement séparés, c'est-à-dire l'espace de la culture et l'espace social, ou plutôt sociétal. C'est-à-dire les lieux où l'on pense que lorsque l'art a le désir ou ressent la nécessité d'intervenir, il le fait autrement que dans les lieux classiques. En effet, il semble extrêmement important, pour ne pas dire urgent, de questionner comment les politiques culturelles mettent en œuvre sur les territoires permettent ou pas d'accompagner, de soutenir des démarches, des manières de s'ouvrir à autre chose que ce qui finit par devenir un ghetto qui se nourrit de lui-même et ne parvient plus peut-être à communiquer avec le reste du monde. Il nous semble également que la mission première des pratiques artistiques, c'est vraiment la réappropriation d'un vécu, d'une parole, d'une pensée, et non peut-être aussi la consommation ou cette espèce parfois d'effroi que l'on peut ressentir devant ces forteresses qui se construisent et qui mettent en péril cette circulation. Comme l'écrit le philosophe Jean-Luc Nancy, je vais emprunter ses propos, il nous dit « Je crois qu'il faut être parfois vigilant, très vigilant, voire même soupçonneux, vis-à-vis de tout ce que les mots comme art ou esthétique peuvent véhiculer de décoratif. » L'important n'est pas d'être présent dans le décor, mais dans la scénographie. L'art n'est pas un moyen de quoi que ce soit, c'est le nom de l'ensemble des gestes par lesquels l'homme forme, se forme lui-même et donne forme au monde dans lequel il vit. Fin de citation. Cela veut notamment dire qu'il nous faut être sur le versant du politique et avoir quelques aspirations à ce que cette société évolue et garde cette foi en l'art comme outil de cette transformation sociale. Résonance sur Radio B, émission spéciale, volet 1, culture et autonomie en Ardèche. Alors nous commençons cette série d'émissions, je le disais à quelques instants, par un peu le versant peut-être du politique. Nous avons choisi de porter un regard global, mais également précis, sur la manière dont un territoire comme celui de l'Ardèche et de son conseil départemental travaille cette envie de faire que l'art, les pratiques artistiques et culturelles, soient un outil justement de cette transformation sociale. Alors 2 invités sont à mes côtés, pour nous aider à appréhender cette problématique. J'ai tout d'abord le plaisir d'accueillir à ce micro Martine Finiel. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes vice-présidente du conseil départemental en charge de la santé, des personnes âgées, de l'autonomie et du handicap. Et puis, Sabine Dauchat. Alors, Sabine Dauchat qui remplace, si je peux m'exprimer aussi un petit peu ainsi, au pied levé, Olivier Peverelli, conseiller départemental délégué à la culture et au patrimoine, qui finalement n'a pas pu se joindre à nous pour cette émission. Mais Sabine Dauchat a bien voulu, en tout cas, être là avec nous, à nos côtés. Bonjour Sabine Dauchat.
Bonjour.
Et vous êtes chargée de mission spectacle vivant et en même temps vous occupez de la coordination culture et lien social.
Voilà, exactement.
Voilà, bienvenue à toutes les deux. Alors peut-être Martine Finiel, première question d'ordre un peu général. Lorsqu'on va parler un peu de la culture et de l'accessibilité, peut-être un certain nombre de publics ou de populations plutôt, qui n'ont pas toujours accès, justement. N'est-ce pas là, peut-être, finalement, la problématique ? N'est-ce pas de se dire comment rétablir des liens entre l'art, les œuvres, les artistes et les couches de la population qui en sont le plus éloignées ?
Mais écoutez, je pense que, effectivement, sans la culture, nous ne serions pas grand-chose. Et que cette question est abordée depuis plusieurs années déjà dans le cadre de nos politiques départementales. Comment favoriser l'accès à la culture pour tous ? Donc, nous l'avons inscrit dans le cadre, dès 2006, dans le cadre de nos politiques, avec... dans le cadre de nos schémas votés en 2008, déjà, nous avions des politiques transversales autour de l'accompagnement des publics fragilisés, je dirais, c'est-à-dire tant des personnes âgées que des personnes en situation de handicap, que des personnes aussi qui peuvent être, à un moment donné, en situation d'insertion. Donc, comment favoriser l'accès à la culture ? C'est une question que nous avons abordée en développant notamment ce que l'on a appelé la démarche culture et lien social. Donc, c'est une démarche qui nous permet, nous, de conforter nos politiques transversales, d'aborder une approche non pas par public de l'accompagnement des personnes, mais bien autour de ce qui est d'une qualité de vie et l'accès pour tous, donc à la culture, mais aussi dans d'autres champs que sont la santé, le sport. Voilà, donc c'est bien une priorité départementale.
Et du coup... finalement, effectivement, quand à travers vos propos, vous soulevez cette question, du coup, ça re-questionne bien, effectivement, qu'est-ce que peut être la place de l'art, finalement, et la place aussi des artistes et des équipes artistiques dans une société.
Mais bien évidemment, cette question, elle bouscule, elle dérange, ne serait-ce que déjà au niveau des pratiques professionnelles, parce qu'on est chacun dans sa boîte à outils. Et à un moment donné, il va falloir élargir sa fleur relationnelle et se dire que, eh ben, il va falloir être en lien avec des professionnels du champ culturel, tous les professionnels du champ médico-social, social, et autour d'une question essentielle qui est avant tout la personne et comment on accompagne la personne dans ce droit qui est le droit d'accès à la culture pour tous.
C'est sûr, quand on prend par exemple la loi de février 2005, il y en aurait d'autres qu'on pourrait citer bien évidemment, et qui sont antérieures à celle-ci, mais qui remettaient, je pense aussi aux différents lieux de culture, la priorité aussi finalement de se mettre en capacité non seulement vis-à-vis du cadre bâti, qui est déjà bien évidemment un aspect important de comment rendre, sur un point de vue urbanistique, l'accessibilité à ces lieux, mais aussi bien évidemment aux accès au contenu aussi également. On voit là aussi qu'il y a des enjeux importants qui retravaillent aussi cette question de la place de l'art, la place des enseignements artistiques, la place aussi de comment, vous le disiez aussi, d'un vivre ensemble finalement, vont être aussi un des facteurs pour pouvoir nourrir ce vivre ensemble et donner du sens aussi à ce vivre ensemble.
Alors, il est clair que si, alors que l'on vient de fêter les 10 ans de la loi que vous évoquez pour l'égalité des droits et des chances avec la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, donc il y a encore bien du chemin à parcourir. Bien évidemment, aujourd'hui, on est sur tout ce qui est accès, c'est-à-dire quand on parle d'accès, on est plus dans la mobilité. Comment, effectivement, on va favoriser l'accès de ces personnes en situation de handicap avec tout ce qui rentre dans le champ de l'accès physique, mais pas seulement, c'est aussi sur le volet psychique, sensoriel, et puis comment on peut être dans une approche avec une médiation adaptée. pour ces personnes. Et d'autre part, c'est aussi non seulement en tant qu'être consommateur, je dirais, mais peut-être aussi acteur. Donc, il y a tout ce qui est autour de la pratique culturelle pour ces personnes en situation de handicap. Et que là, bien évidemment, ce champ du possible n'est réalisable que si il y a rencontre entre les professionnels de la culture et les professionnels qui accompagnent ces personnes en situation de handicap. Et c'est bien là, effectivement, que tout un accompagnement et une évolution des pratiques est nécessaire, est indispensable pour pouvoir y parvenir.
Tout à fait. Et en même temps, du coup, quand on évoque ce déplacement finalement de l'artiste vis-à-vis de ce public et de qu'est-ce qu'il va y faire, il y a aussi le côté de la marge finalement qui va exister. C'est-à-dire que quand on rediscute la place de l'art et, ou de l'artiste finalement dans un espace social donné, ça re-questionne qu'est-ce qui relève de l'art et qu'est-ce qui relève pas de l'art. On a aussi à un moment donné... aussi par protection certainement, et puis peut-être par vouloir aussi, parce que ça questionne très profondément, un milieu aussi culturel et artistique qui peut se dire ce n'est pas de l'art parce que ça se passe dans tel avec tel public, ou ça ne correspond pas aux critères, ou à la hiérarchisation, si je peux mettre aussi un autre terme, de cette vision-là, et que du coup on a tendance à se dire oui, c'est de la pratique culturelle, mais on la met peut-être à côté parce que elle touche aussi des publics spécifiques.
Alors, il n'y a pas de pratique plus ou moins noble, si j'ose m'exprimer ainsi, mais plutôt une volonté affirmée de dire qu'à un moment donné, il y a aussi une méconnaissance, et c'est bien la méconnaissance qui est vecteur de peur, qui est vecteur de difficultés dans le changement. Donc peut-être que là aussi, nous avons nous des responsabilités en termes de communication, en termes d'appréhension, comment mieux connaître le secteur, le handicap, comment lutter contre tout ce qui fait exclusion, repli, et qui amène ces personnes à être en situation de grande solitude et de grande souffrance, et puis de valoriser aussi leur capacité à pouvoir faire émerger des pratiques qui sont extrêmement importantes autour des programmations d'artistes handicapés, qui eux-mêmes, qui peut moins bien qu'eux, je dirais, communiquer et montrer à voir que le handicap n'est pas une frontière, mais au contraire, peut-être une exploration que l'on commence juste aujourd'hui à s'offrir.
Résonance sur Radio B, émission spéciale, volet numéro 1, culture et autonomie en Ardèche. Alors nous allons, dans le cadre de cette émission, passer de manière très complémentaire comme nous l'avons eu il y a quelques instants, avec Martine Finiel en tant que vice-présidente du conseil départemental, justement une vision un petit peu plus large, un petit peu plus politique, et puis en même temps d'avoir en écho, en complémentarité avec vous, Samine Docha, aussi, je dirais, la mise en connaissance d'une réalité d'aujourd'hui, comment les choses se traduisent également un petit peu sur le terrain. Alors, peut-être on pourrait commencer par là, c'est-à-dire de votre place à vous, à la fois dans le sens que vous coordonnez aussi culture et lien social, mais aussi par rapport à votre connaissance du spectacle vivant sur ce territoire. Ce rapport, cette place, je dirais, par rapport aux équipes artistiques, la manière dont elles s'engagent aussi dans ces directions-là, comment vous percevez aussi aujourd'hui au regard de ce que nous venons de dire un peu l'implication, je dirais, ou les réflexions ou les enjeux aussi des équipes artistique de cette manière-là, dans ce domaine-là.
Oui, alors je précise aussi que sur la coordination de culture et sociale, pour moi, c'est pas seulement le spectacle vivant, c'est vraiment tous les domaines qui sont concernés. Mais c'est vrai que du coup, je suis chargée de mission spectacle vivant. Alors par rapport à l'appréhension de tous ces enjeux par les équipes artistiques sur le territoire, ben, en fait, comme c'est une démarche, comme il a été dit tout à l'heure, qui a quelques années déjà, au final, les compagnies, entre autres, commencent à bien connaître le dispositif, l'appel à projet, par exemple, qui permet d'accompagner des projets qui sont co-construits entre un acteur social ou médico-social et un acteur culturel.
C'est un appel à projet qui a été mis en place par le conseil départemental, et que ce soit l'établissement ou l'équipe artistique peut remplir cet appel à projet.
Du moment qu'il y a un partenariat vraiment fort, une co-construction entre les deux. Après, effectivement, il y a un porteur administratif du projet, mais dans les faits, normalement, on a au moins deux porteurs. Après, ils peuvent être plus nombreux, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, en fait, cet appel à projet commence à être assez bien connu. Et nous, par ailleurs, en fait, au niveau de la direction de la culture, dans notre accompagnement des différents porteurs de projets, on est toujours vigilant aussi à rappeler bien ces problématiques. C'est vrai qu'on est sur des enjeux d'accompagnement de la création, de la diffusion. Pour le patrimoine, ça va être aussi les aspects de conservation. Mais les questions de médiation vont toujours être au centre, aussi bien que les questions de pratiques artistiques et de développement de partenariats qui sortent un peu justement des clous et qui vont aller vers des structures qui sont sociales, médico-sociales, qui vont permettre de travailler avec des publics qui justement n'ont pas accès à ces pratiques de façon naturelle. Donc là, c'est quand même, j'ai l'impression, ça fait juste un an que je suis là en Ardèche, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez bien intégré, même s'il y a toujours des petits réflexes qui sont à mettre en place. La journée culture et autonomie qu'on a organisée le 6 novembre a permis à certains de se dire, au niveau culture, que oui, effectivement, ils n'avaient pas pensé à envoyer leur programmation à l'EHPAD ou à l'IME qui est juste à côté, alors que finalement, c'est un geste assez simple à mettre en place, mais c'est peut-être là juste des petits réflexes qui manquent encore, mais on progresse quand même.
Et ça veut dire aussi, si on veut le regarder encore d'une manière un petit peu globale, il y a de nombreuses compagnies professionnelles, parce que là aussi on sait que ce qui est important, on le rappelait à travers vos propos, Martine Finiel, de travailler en direction d'une population la plus élargie du territoire, et en même temps on a besoin de cette présence, je dirais cette complémentarité, pratique amateur, population, pratique professionnelle, l'implantation aussi des pratiques professionnelles sur ce territoire, aujourd'hui je dirais, est assez importante pour pouvoir permettre ce lien-là aussi.
Oui, en Ardèche, on a pas mal de compagnies professionnelles, donc qui sont dans différents champs, aussi bien dans le théâtre que plus les arts de la rue, la danse, le cirque. C'est vrai qu'on a un territoire qui a accueilli pas mal de compagnies au cours de ces dernières années, qui sont peut-être des compagnies plutôt émergentes ces derniers, enfin, qui sont pas encore tout à fait bien établies et pas forcément reconnues à un niveau au-delà du régional, mais qui commencent à faire un peu leur chemin. Et puis par ailleurs d'autres compagnies un peu plus reconnues comme les Nouveau-Nés, les Valentin, qui sont déjà bien installés et bien impliqués aussi sur le territoire, sur tous ces aspects. Et puis qui aussi se plie à ces enjeux, de faire le lien entre la pratique amateur, de faire le lien avec les structures, les acteurs sociaux, etc. Donc toutes le font pas. Enfin, ce serait faux de dire que vont dans cette direction-là. C'est pas forcément l'enjeu pour toutes. Et puis ça demande aussi à l'artiste de se mettre dans une position qui est pas toujours évidente parce que on attend de lui d'être très pédagogue, de faire de la médiation. Et c'est pas forcément quelque chose qui est facile pour tout le monde. Tout le monde n'a pas ces compétences-là. Mais certaines compagnies arrivent à jouer le jeu d'avoir aussi bien leur création qui se déploie et qui se diffuse assez largement au niveau de la région et puis en même temps d'être assez impliquées auprès d'un EHPAD par exemple pour monter des projets. Ce sont des choses qui peuvent se faire assez facilement. Ouais.
Si on continue un peu cette cartographie à grands traits, peut-être on peut évoquer aussi quelques instants. Alors les lieux de pratique, d'enseignement, de transmission, par exemple. Est-ce que, par exemple, au niveau des écoles de musique présentes, etc., ou des lieux de la danse ou du théâtre, en tout cas, lieux de transmission on a aussi développé petit à petit l'accueil, je dirais, de tous ces publics. D'ailleurs, se sont-ils mis déjà un petit peu en capacité de pouvoir faire aussi, d'accueillir au sein des parcours et de leurs propositions ces publics-là?
Alors, on a plutôt des écoles de musique sur le département. C'est vrai qu'on a un peu un déficit au niveau des écoles de... Normalement, on est donc sur une école de musique départementale, entre autres, qui va aussi sur la danse, mais c'est vrai que c'est un volet qui est un peu moins présent. Là, aujourd'hui, c'est des questions qui se posent. C'est vrai que ce sont aussi des formations qui sont nécessaires pour que les professeurs, les intervenants puissent accueillir des publics éventuellement handicapés qui nécessitent un accompagnement un peu différent. Alors là, j'avoue aussi que j'aurais pas une connaissance très précise, en fait, à ce niveau-là, parce que ça va être plutôt un collègue qui suit l'enseignement artistique qui pourrait répondre plus précisément. Mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent. Et là, notamment avec toute la démarche culturelle et autonomie qu'on lance, voilà, c'était aussi une idée à un moment peut-être de venir interroger la pratique artistique, entre autres la pratique musicale, comment on la pense aussi peut-être un peu différemment, mais c'est des réflexions en cours.
Résonance sur Radio B, émission spéciale volet 1, culture et autonomie en Ardèche. Alors, Martine Finiel, je voulais qu'on rebondisse sur les propos de Sabine Docha, justement, quand elle évoquait, et vous l'aviez évoqué tout à l'heure un petit peu également, cette journée départementale qui a eu lieu le 6 novembre dernier, culture et autonomie. Peut-être quels en étaient les enjeux pour vous de ce premier rendez-vous, une première journée de cet ordre qui avait volonté en tout cas de rassembler personnel de la santé, du médico-social, mais aussi de la culture.
Alors, l'enjeu de cette journée, c'était à un moment donné de mettre les professionnels tant de la culture que du champ médico-social et social ensemble pour qu'ils puissent partager leurs différences, leurs complémentarités et qu'ils puissent être dans une dynamique de favoriser l'accès à la culture pour tous. On voit bien que c'est pas si simple que ça, que la posture à chaque fois elle est différente. Alors pour ce qui est des professionnels médico-sociaux et sociaux, bien évidemment, c'est d'abord comment on communique, comment on donne l'information, comment on favorise l'accès, ne serait-ce que par ce vecteur de communication. Ensuite, c'est peut-être parler aussi le même langage. Les mots n'ont pas forcément toujours le même sens. Et il est important, effectivement, d'avoir un phrasé commun pour que la personne puisse s'y retrouver. Et puis, moi, je dirais que l'important pour nous, politiques, c'est de décloisonner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne s'adresse pas forcément à une personne en situation de perte d'autonomie, on ne s'adresse pas forcément à un jeune enfant, on ne s'adresse pas forcément à une personne âgée, mais on s'adresse à une personne.
C'est ça.
Avec la notion de droit et donc comment chacun on s'attache à faire en sorte que ce droit soit exercé et soit possible.
Et c'est sûr, vous avez raison que chacun d'entre nous, nous le vivons à des endroits différents, mais les étiquettes, en tout cas, les poids qu'on nous fait peser dans certaines situations, parce qu'on nous voit que sur un certain aspect, effectivement, alors encore a fortiori, lorsqu'on est en plus dans une situation de fragilisé ou d'une identification sociétale plus particulière, handicapé, malade, incarcéré, on porte et on a tendance à nous voir que sur cette étiquette-là, et du coup, à oublier ce côté pluriel de l'individu, et c'est peut-être là aussi où l'art, quelque part, revenant réinterpeller différemment, nous fait percevoir aussi que finalement, cet individu que je pensais voir de telle manière, que ce soit pour le professionnel de santé ou même celui de l'artiste, finalement, découvre un autre individu qui se révèle autrement, porteur d'autres, peut-être de choses différentes d'ailleurs, de regards complètement différents, de pensées différentes, mais que là, il y a un enjeu majeur finalement.
C'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser au moi, mais on va s'adresser plus particulièrement à tout ce qui fait ressources, les ressources de la personne, essayer de les mettre en avant. Et on se rend bien compte que quand on est dans un établissement, par exemple, on va vite avoir des freins, ne serait-ce que dans l'organisation institutionnelle, dans l'accompagnement institutionnel. Donc, ça oblige à se mettre autour d'une table, à voir comment on vient réinterroger l'organisation. Qu'est-ce qui fait que quand on pense, par exemple, théâtre pour des personnes qui sont âgées, que ces représentations soient uniquement en institution l'après-midi, peut-être qu'il va falloir penser comment on s'organise sur un territoire pour qu'elles aillent elles aussi au théâtre. C'est-à-dire, ça invite à réfléchir autour de la mobilité. Donc, ça invite à penser aussi tout ce qui est autour des besoins matériels, parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Donc c'est bien en fait une réflexion copartenariale qui doit être portée sur un territoire en proximité. Je pense que l'accès à la culture pour tous n'a de sens que si elle se réfléchit en proximité, au plus près des personnes.
Donc ça va nécessiter, et je pense que c'est un petit peu une des premières choses à laquelle cette journée a peut-être permis de commencer à déjà de mettre en connaissance les uns les autres de ce qui se passe, et puis que ces questions-là, elles vont être à aborder, même si, on l'entend bien à travers vos propos, et ce qui paraît tout à fait logique, ça questionne profondément les organisations, on va dire même un EHPAD à ses horaires de repas, parce qu'il y a ses équipes, déplacer, ne serait-ce que vous évoquez aller au théâtre, finalement, ça va peut-être provoquer à un moment donné des soucis à la direction de l'établissement, parce que je dis peut-être pas l'horaire exact, mais si l'horaire est à 18h30 et qu'il faut aller au théâtre, du coup, quid du repas, qu'est-ce qu'on fait de l'organisation, et donc du coup de se dire, est-ce que du coup on se met, est-ce que c'est l'organisation qui privilégie et qui est privilégiée, ou comme vous le dites, c'est plutôt l'individu et qu'est-ce qu'on a envie de faire avec l'individu qui va être prioritaire, si je peux dire.
Alors, on voit bien que derrière tout cela, il y a quand même la question des moyens. Hein, parce que ce qu'on va nous mettre en avant, c'est le manque de moyens.
Il y a aussi, bien sûr.
On n'est pas forcément dans un contexte aujourd'hui qui permet d'avoir toutes les réponses faciles. Donc, ça ne peut pas se réfléchir à une seule voix. Ça doit se réfléchir avec la personne elle-même, avec les familles, avec bien évidemment les professionnels, mais aussi les acteurs associatifs du secteur qui participent et qui contribuent aussi à cette volonté commune et partagée qui est l'accès à la culture pour tous.
Finalement, il y a aussi le fait aussi qu'on introduit du changement. Du coup, dans une organisation, alors chacun aussi a ses postures, je dirais, vis-à-vis aussi du changement. Il y a aussi relation de pouvoir, finalement, dès que j'agis sur autrui, il y a une manière, que je sois handicapé, pas handicapé, etc. Là aussi, il y a une relation à autrui qui fait que, du coup, à un moment donné, j'ai une action de pouvoir aussi par rapport à celle-ci. Donc, du coup, ça va questionner l'organisation, mais comment chacun est acteur à l'intérieur de l'organisation, se ménage aussi des espaces de pouvoir. Et quelle conscience aussi il a de cette notion du pouvoir et de qu'est-ce qu'il veut en faire ?
Tout à fait. Je pense que ça vient interroger aussi les artistes autour de la notion de valeur, en quoi effectivement le fait d'avoir un spectacle hors les murs déprécie un spectacle. Donc c'est peut-être aussi de ce côté-là qu'il faut se décaler, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas aller dans une salle, dans un EHPAD, voir un spectacle, en quoi il a plus ou moins effectivement de valeur au regard du public, et peut-être être dans une approche plurielle, c'est-à-dire mixer effectivement les publics, qui permet d'être sur des regards croisés. Et je crois que c'est bien ça qu'attend l'artiste avant tout.
Samine Docha, sur vous qui côtoyez régulièrement, justement, un peu dans le cadre de cette coordination culture et lien social, c'est des problématiques aussi que vous renvoie ce que nous venons de dire un petit peu avec Martine Finiel, les équipes artistiques, ou en tout cas des interrogations arrivent, ou même peut-être parce que certains se positionnent d'emblée, c'est-à-dire que là, aussi dans ce qu'on vient de dire, effectivement, gardons l'exemple de l'EHPAD, peut-être certains artistes se positionnent en se disant ben moi en tout cas ma conception des choses fait que je peux tourner dans les scènes habituelles, c'est-à-dire les lieux habituels. Ouais. Me transposer dans un lieu inhabituel, c'est changer, gardons l'idée de valeur, la valeur de l'élan artistique, esthétique et du rapport qui est en jeu. Et alors pour d'autres, vont situer complètement ailleurs, c'est-à-dire vont se dire non. Pour nous, la démarche, elle part de là et que ça ne doit pas rester que dans des circuits fermés, ce qu'on peut quand même avoir beaucoup encore aujourd'hui, où l'art fonctionne en circuit fermé et que là, du coup, il y a une histoire de valeur, effectivement, de qu'est-ce qu'est de l'art, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'il se situe dans un autre lieu, alors du coup, ça n'en serait pas, ou en tout cas, on pourrait le dévaloriser.
Alors, je suis pas sûr qu'on ait tellement cette problématique là. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai peu rencontrée, mais parce que aussi culture et lien social est basé sur le volontariat. On force personne à monter des projets, à déposer des projets. Donc, a priori, les compagnies qui ou autres structures, les musées, etc., qui s'engagent là-dedans, le font parce qu'ils ont l'envie de le faire. Après, il y a déjà eu l'an dernier notamment un petit problème de compréhension sur un lien qui s'est mal fait justement entre l'équipe médicale du coup et puis les artistes, où l'équipe médicale a mal compris la démarche artistique, les artistes n'ont pas su se plier justement à ces interrogations et ont voulu conserver cette position d'artiste qui savait un peu comment faire et qui voulait partager ça avec avec les patients qui étaient dans l'atelier en question, avec qui ça a très bien marché. Mais pour le coup l'équipe médicale a plus ou moins bien accueilli la démarche. Donc là, c'était plus un déficit de communication et qui, à mon avis, aurait pu complètement se régler dans le dialogue.
Entre les deux, dans le projet, dans la compréhension.
C'est un problème technique qu'ils ont eu à ce moment-là. Mais sinon, faut savoir aussi qu'en Ardèche, depuis un bon moment, on est sur l'idée aussi que tous les spectacles, par exemple, ne se passent pas forcément dans des salles de spectacle. Et on a entre autres un peu nos grands pôles culturels qui sont des déjà dans une démarche d'itinérance sur tout le territoire. Donc on a le théâtre de Privas par exemple qui a les petites envolées qui va aller se balader dans plein de salles des fêtes du territoire. Il y a la comédie itinérante du Centre dramatique national de Romardèche qui est dans le même état d'esprit et puis tous les deux vont même aussi avoir des démarches dans des collèges. Les petites envolées ont lieu aussi avec le Centre hospitalier Sainte-Marie. Donc voilà, ils vont aller emmener des artistes un peu dans des endroits différents. Pareil pour la SMAC 07 ou alors le SOAR, donc le Centre National des Arts de la Rue, qui rayonne plus dans le Nord Ardèche, mais qui va être dans la même dynamique. Il y a déjà l'idée, vu qu'on est en Ardèche et que la géographie est un peu compliquée,
impose aussi des choses.
Et qu'on est aussi dans un milieu un peu rural, et les équipements, voilà, on a effectivement des salles des fêtes un peu partout dans le territoire, mais on n'a pas forcément des salles de spectacle partout.
C'est ça.
On a déjà des structures qui sont adaptées et qui sont un peu tout-terrain, et qui ont dépassé ces questions-là de dire tant que ça se passe pas dans un lieu symbolique de la culture, ce n'est pas de l'art. C'est pas tellement des interrogations que je retrouve moi en tout cas.
Bon, ça veut dire qu'en tout cas, il y a une réflexion qui avance. Et puis, ce que disait Martine Finiel, il y a concertation. Enfin, c'est ce dialogue-là, en tout cas, qui est aussi important.
En fait.
Qui est important d'avoir. Effectivement, ce que vous citiez comme exemple, c'est de l'ordre de la médiation, effectivement. Qui est complètement nécessaire. C'est-à-dire apprendre l'un de l'autre et apprendre. Martine Finiel citait aussi qu'il y avait des histoires de vocabulaire, de compréhension de vocabulaire, de langage aussi, et qu'on. Voilà, de compréhension de comment on fait le chemin pour aller comprendre l'autre et au bénéfice du projet et bien sûr des personnes bien évidemment concernées. Bah,
c'est justement l'aspect de co-construction qu'on met complètement en avant dans l'appel à projet culture et lien social qui est vraiment primordial et qu'on essaie d'encourager d'avoir vraiment ce temps en amont où aussi bien l'acteur médico-social, social que culturel vient apporter sa pierre au projet, vient montrer sa vision. Et ce qui est particulièrement important aussi ensuite quand, dans le déroulement du projet, c'est que les équipes, enfin les professionnels sociaux et médico-sociaux soient aussi partie prenante de l'atelier, des sorties culturelles au spectacle ou en visite, parce que ça change aussi les rôles de chacun, les postures de chacun. Ça, je pense que vous en parlerez aussi avec le Centre Hospitalier Sainte-Marie, parce que c'est complètement leur démarche. Mais je vois, par exemple, l'an dernier, on avait une anti-chorale qui s'est faite justement avec la SMAC 07, où là, c'était plus sur l'aspect insertion, avec des personnes qui sont justement dans une démarche d'insertion au RSA, etc., et qui ont participé à cette chorale avec les travailleurs sociaux qui les suivent et qui en fait qui étaient juste collègues et puis participants d'une même chorale et avec les mêmes enjeux de être au bon endroit au bon moment dans la chanson et puis de s'amuser ensemble et ça change aussi les regards des uns et des autres, pas seulement le regard du professionnel sur la personne, mais aussi de la personne vers le professionnel qui en fait et quelqu'un aussi qui a le droit d'avoir une pratique artistique, bien etc., sûr. Et qui a aussi accès à la culture comme elle. Quoi. Donc, c'est des rapports qui sont intéressants aussi à interroger dans ces projets.
Effectivement, donc du coup, peut-être aussi à comment, là on traite de l'action collective finalement, les ressorts et les difficultés de l'action collective, et du coup comment on peut accompagner, il y a le projet en lui-même, mais il y a aussi cet aspect-là finalement qui lui va être aussi extrêmement important, parce que c'est ce qui va en être sa réussite, c'est ce qui va en être ses développements peut-être aussi, et la réussite aussi de ce qui est recherché.
Oui, complètement, c'est... Enfin, tout le monde met la main à la pâte pour que ça réussisse, quoi. Au final, c'est vraiment ça. Si même si éventuellement les personnes sont pas partantes, forcément ça sera. Enfin, les personnes, je veux dire, là par exemple, les personnes en insertion ou quoi, si elles n'avaient pas souhaité participer, on arrête le projet. Effectivement, ça sert à rien. Mais l'idée, c'est d'être vraiment tous dans une démarche, un dialogue avec les artistes là ou les médiateurs qui vont amener la pratique, qui vont amener la sortie, et puis d'être dans un moment de partage, de convivialité. Et c'est ça qui est le plus important au final.
Résonance sur Radio B, émission spéciale volet 1, culture et autonomie en Ardèche. Je vais revenir aussi vers vous, Martine Finiel. On a évoqué maintenant un petit peu cette journée, déjà ce qui a pu en découler. Quel serait, à vos yeux aujourd'hui, après cette première étape, en tout cas de rassembler, qu'est-ce qui vous semblerait, je dirais, urgent ou en tout cas nécessaire d'entreprendre à partir de cette journée? Quels seraient les enjeux qui vous sembleraient prioritaires?
Les enjeux, c'est de poursuivre. Je crois que cette journée a mis en exergue les attentes de chacun autour d'une volonté commune qui est de continuer à avancer sur ce chemin, qui est avant tout une aventure extraordinaire. La question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui font le choix de vivre à domicile, oui, dans un isolement le plus total. Et comment nous pouvons être là aussi favoriser cet accès à la culture pour tous et donc pour ces personnes qui se retrouvent en situation de grande solitude. Donc, je sais que des professionnels réfléchissent Donc tant sur le champ des professionnels, du champ de la culture, je dirais, de ce domaine, que du champ médico-social, sur comment on peut accompagner les personnes qui sont en situation d'isolement dans nos zones rurales, de petites montagnes, hein, où parfois la mobilité n'est pas facile. Et peut-être penser comment on peut être autour d'une lecture, partagée, partager des livres. C'est vrai qu'en Ardèche, nous travaillons déjà depuis longtemps sur ce droit à la culture, hein, à la lecture publique, notamment avec le dispositif Culture Bleue, puisque depuis 1998, en lien avec donc la bibliothèque départementale, des actions sont menées qui permettent effectivement à des animateurs dans les territoires de pouvoir promouvoir la culture, la faciliter. C'est aussi accompagné par l'achat de liseuses, par exemple, en maison de retraite. Donc comment, avec tout ce réseau formidable des bibliothèques qu'a la bibliothèque départementale dans les territoires, comment on pourrait peut-être penser aller chez l'habitant, organiser des veillées autour d'une lecture choisie, des partages qui peuvent être effectivement riches et qui favoriseront effectivement le fait que tous les Ardéchois, à un moment donné, puissent être en situation de rencontre, d'espace, de découverte et puis de petits bonheurs. Parce que je crois qu'aujourd'hui, la vie, elle est construite de plein de petits bonheurs et ça peut en être un.
Et c'est vrai que c'est important, cette idée de moment partagé, de partage sensible. En tout cas, est importante aussi également. Je pense notamment, on pourra en parler peut-être quelques instants avec Sabine Dauchat aussi également, mais le fait qu'il y ait ce dispositif, par exemple, Culture et Santé, qui lui est porté par la région, la DRAC, l'Agence régionale d'hospitalisation, qui s'intéresse aux établissements, que ce soit du médico-social ou d'abord, dans un premier moment, c'était hospitalier, et puis maintenant, ça s'est élargi au médico-social. Mais si on prend le médico-social, effectivement, le but aussi, même si un certain nombre de ces personnes usagées résident dans ces établissements, le but, c'est de retrouver l'ordinaire, finalement. C'est de pouvoir avoir, à un moment donné, retrouver, aller vers les autres et, en tout cas, avoir des moments où ils puissent retrouver, finalement, ce partage, là aussi, du sensible avec d'autres. Et là aussi, il y a un enjeu important par rapport à ce que vous souleviez.
Alors, il y a un enjeu d'autant plus important que c'est vrai que jusqu'à maintenant, hein, donc Intercestis était plutôt dédié donc aux sanitaires.
Tout à fait.
S'ouvre au champ médico-social et c'est plutôt.
Mais comment vous le percevez, oui,
C'est plutôt une chance. Oui. C'est que nous, on est ravis effectivement que culture et santé puissent irradier sur l'ensemble des personnes des Ardéchois, en sachant que c'est avant tout une plateforme de coopération. Donc ça permet de mutualiser des moyens, ça permet aussi d'avoir du soutien dans des actions que l'on souhaite conduire dans nos territoires et ça permet et ça facilite la rencontre entre les professionnels du monde de la culture et puis l'accompagnement des personnes qui sont en situation à un moment donné fragilisée, je dirais.
Ça veut dire que du coup, il va y avoir un travail, puisqu'il y a un dispositif qui existe pour vous, qui est porté par le conseil départemental, une réflexion, comment peut-être s'harmoniser à un moment donné, ce qui peut être porté par le dispositif. Du coup, vous parliez de cloisonnement tout à l'heure, c'est-à-dire du coup, on a quelquefois des dispositifs qui ont tendance à cloisonner les choses, mais là du coup, comment justement faire qu'un dispositif comme celui qui existe et qui a été porté par le conseil départemental depuis plusieurs années, et puis cet élargissement que propose Interstice, un autre dispositif alors avec essence nationale à un moment donné, comment vous voyez ces articulations-là, ce travail-là?
Alors, cette articulation, elle est, à mon avis, à double sens.
Oui.
C'est-à-dire comment, effectivement, aujourd'hui, les acteurs locaux peuvent participer à des formations. Parce que avant tout, ça passera aussi par
la formation.
Une évolution professionnelle, hein, de l'approche professionnelle de ces professionnels, par une rencontre, par un partage d'expériences, parce que différentes expériences sont menées dans d'autres départements, dans d'autres régions, qui vont venir nourrir et enrichir ce que l'on pourra mener en Ardèche. Et il s'est mis en place un comité local,
oui,
Ardèche Drôme, qui se réunit régulièrement puisque il me semble que c'est une réunion mensuelle qui réunit l'ensemble des techniciens, hein, qui est donc des deux départements, qui permet de pouvoir échanger autour de cette thématique et donc favoriser la rencontre, la réflexion et la mise en œuvre d'actions culturelles à l'attention de tous.
Et c'est d'ailleurs une spécificité dans ce qu'est la région aujourd'hui, même élargie, puisque les comités locaux sont souvent, dans le cadre de culture et santé, liés à un territoire donné. Et là, il y a quand même l'originalité déjà d'une volonté de coopération, une volonté de faire ensemble, puisque ça associe les deux départements, ce qui est, je crois, le seul comité local culture et santé qui est sous cette forme, d'ailleurs, hein, si je ne me trompe pas, Sabine Dechat.
Oui, il me semble que c'est le seul là pour Rhône-Alpes. Et du coup, ça va peut-être même finir par poser problème parce que là, la dernière, on a eu un comité justement où on présentait l'ouverture culture et santé au médico-social. On avait invité tout le monde, on s'est retrouvé à près de 50. Donc ça va finir par être problématique sur le mode de travail. Mais on va trouver des solutions. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir déjà se rencontrer entre Dromois et Ardéchois, entre technicien, porteur de projet, aussi bien côté santé que médico-social. Du coup, oui, c'est particulièrement intéressant de voir, de pouvoir confronter les façons de faire, les méthodes, de pouvoir discuter et échanger à ce niveau-là, et y compris entre départements, du coup, sur la façon dont nous, on se positionne et on accompagne en tant que technicien ces groupes de travail, quoi.
Moi dans ma chambre, je chante. Moi dans ma chambre, je chante en bulgare. Moi dans ma chambre, je chante en bulgare, beaucoup de tristesse. Moi dans ma chambre, je chante en bulgare et ça me soulage. Moi dans ma chambre, je suis bulgare d'origine. Moi dans ma chambre, je chante en bulgare. Moi dans ma chambre, j'ai quitté la Bulgarie depuis 1953. Moi dans ma chambre, j'ai passé 4 ans. Moi dans ma chambre, j'ai passé 4 ans dans un camp de concentration. Moi dans ma chambre, les souvenirs me sont revenus petit à petit.
C'est le vent du nord, l'histoire d'un pêcheur. C'est le vent du Danube. L'histoire d'un pêcheur travaille sur le champ d'Ad. Il se rappelle le travail d'un amour. Il se rappelle d'un amour séparé. Il raconte sa tristesse.
C'est vers une heure que les coups pouvaient avoir. Anna. Звезди блестят, потихи ду на вход красетно, сихи в нея рибар без гри шлопей.
Ce ne sont pas nos mains qui se sont croisées, ce sont nos pieds nus.
Résonance sur Radio B, émission spéciale, volet 1, culture et autonomie en Ardèche. Alors nous venons d'entendre « C'est le vent du Nord », extrait d'un document intitulé « Requiem sismique », un projet intergénérationnel justement réalisé avec l'espace social Alouette de Pessac et l'EHPAD, le Jardin des Provinces et une compagnie là aussi musicale professionnelle, la compagnie Fracas de la région Aquitaine. Alors peut-être Sabine Dechat, je posais la question justement tout à l'heure à Martine Finiel de qu'est-ce qu'elle voyait comme perspective importante justement à son niveau suite à la journée du 6 novembre dernier. Vous, à votre échelon de la direction de la culture, il y a déjà je crois aussi un document, on est en train de remettre en forme aussi les propos. Quels sont les axes qui vous semblent se déduire, je dirais, dans le travail proche maintenant à entreprendre suite à cette journée? Puisque Madame Finiel justement le soulignait, il y a des attentes, il y a des envie, il y a des besoins. Comment arrivez-vous un petit peu à cerner, je dirais, peut-être les priorités dans les semaines et mois à venir?
Alors, il y a plusieurs choses qui se dégageaient à la suite de cette journée, le 6 novembre. Après, Il y a tellement de choses qui s'ouvrent à nous, justement, de rencontres, de formations, de groupes de travail à mettre en place, qu'il faudra faire des choix. Et là, du coup, ce sera peut-être aussi nos élus qui, quand même, nous diront un peu dans quelle direction aller, vers quoi on se dirigera. Après, là, ce qui ressortait quand même beaucoup de cette journée où il y avait des professionnels de la culture, mais surtout du médico-social, c'est que il y avait plusieurs, notamment des animatrices, parce que c'est beaucoup des femmes, qui nous disaient mais c'est super, en fait on pensait qu'on était toutes seules dans notre réflexion et on se rend compte qu'on est plusieurs à partager là ces interrogations on a besoin d'autres temps d'échanges comme ça.
La mise en lien.
Oui, et puis de rencontres surtout avec les acteurs culturels du territoire, d'échanger aussi en local, etc. Parce que du coup le département est assez grand. Donc voilà, il faudrait éventuellement voir comment on facilite là cette meilleure interconnaissance entre culture et médico-social, justement, comment on va aussi peut-être plus loin, effectivement, donc Madame Finiache le disait, sur des formations éventuellement, parce que là, on avait effectivement des gens qui nous disaient, super, là, ça nous donne envie d'aller plus loin et de monter des projets, etc. Sauf que, on ne connaît pas très bien, donc comment on monte un projet culturel, éventuellement on va chercher des financements, etc. Donc, c'est là que c'est intéressant aussi d'envisager des binômes avec les acteurs culturels, parce que eux, pour le coup, ils ont un peu plus l'habitude d'être
de ce type de montage.
Oui, voilà. Mais effectivement, c'est des choses qu'il faudrait essayer de travailler. Après, on avait des questions plus spécifiques qui apparaissaient. Entre autres, on le disait tout à l'heure sur l'enseignement artistique adapté. Comment nous, on va essayer de travailler éventuellement avec les écoles de musique, les conservatoires du territoire sur ces questions-là. C'est quelque chose dans lequel on pourrait se lancer. Ma collègue sur le patrimoine aussi s'interrogeait sur l'aspect de médiation adaptée dans les musées, par exemple. Comment on va essayer d'aller plus loin dans ces réflexions sur les musées d'un point de vue de la communication, par exemple, rien que du point de vue des logos, dire que tel musée est accessible aussi, certes aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux malvoyants, parce qu'elles auront des outils adaptés. C'est aussi mettre ça en avant. À plus court terme, ça va être effectivement tout cet appel à projet culture et santé qui s'ouvre au médico-social, et de voir comment nous, on peut se faire le relais de cet appel à projet, comment on pousse un peu, donc ce qu'on a essayé de faire déjà, comment on pousse un peu les structures du territoire à s'intéresser à ce nouvel appel à projet qu'elles connaissaient pas forcément dans le médico-social, c'était vraiment pas connu. Et puis on a aussi des choses qui se font où là on est vraiment dans l'accompagnement parce qu'elles se font indépendamment de nous. Il y a entre autres un atelier du 6 novembre sur le domicile qui a très bien fonctionné. Il y a un groupe de travail qui s'est monté à la suite et il y a des projets qui sont en train de se mettre en place, notamment en Nord-Ardèche avec des services d'aide à domicile, un EHPAD, la Comédie de Valence, qui sont en train de voir comment travailler ensemble pour à la fois toucher les personnes à domicile, impliquer les gens de l'EHPAD. C'est en cours de construction. Mais pour le coup, là, c'est à nous aussi de voir, maintenant qu'on a un peu initié les choses, comment on va continuer d'accompagner tout ça, quoi.
En tout cas, c'est une belle chose de voir que du coup, ça a créé des initiatives. Il y avait des attentes, mais en même temps, ils se sont donné, finalement, entre guillemets, les moyens de répondre à certaines attentes, en tout cas, en se mobilisant, en tout cas.
On avait bien insisté sur l'idée que le plus important, c'était le dialogue, et le dialogue s'est fait et continue maintenant, même sans nous, en fait. Voilà. Donc, c'est très bien.
Martine Finiache, je reviendrai alors sur une vision un peu plus globale. On l'avait évoqué tout à l'heure, vous l'évoquiez vous aussi, et on va nous renvoyer à la question des moyens. Peut-être juste, on sait effectivement que chaque collectivité départementale aujourd'hui, et on peut le constater sur l'ensemble du territoire national, il n'est pas spécifique non plus à la région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, cette nouvelle région, mais que du coup, la baisse des dotations de l'État particulièrement fait que les collectivités révisent forcément leur contexte budgétaire, souvent à la baisse et quelquefois, et ça on peut le retrouver dans beaucoup de territoires départementaux, c'est effectivement les baisses budgétaires qui s'inclinent sur la culture aussi, et on s'aperçoit bien évidemment que tout ce que nous venons de dire aujourd'hui dans le cadre de cette émission, ô combien l'importance, alors vous me direz il y a des critères d'importance, quels peuvent-ils être et quels sont les choix. Mais qu'en est-il pour ce qu'il en est ici, le territoire de l'Ardèche? Je sais que le vote n'est pas encore fait, c'est en discussion, en travail en tout cas, mais peut-être sans dévoiler, bien évidemment, peut-être toutes les discussions d'arbitrage aussi qui peut-être qui peuvent exister, j'imagine certainement. Mais comment peut-être les choses se dessinent-elles? Est-ce qu'on essaye de préserver quand même un certain nombre de choses au regard de tout ce qu'il a été dit un petit peu tout à l'heure?
Écoutez, il est bien difficile effectivement de vous donner aujourd'hui le budget 2016, puisqu'il n'est toujours pas voté, il n'a pas été en débat. Mais je peux rappeler quand même notre président, hein, Hervé Solignac, a bien réaffirmé qu'en Ardèche, les politiques importantes étaient l'éducation, la culture, le sport, et qu'elles participent effectivement à la qualité de vie des Ardichois, et qu'au regard de ça, nous ne sommes pas dans une dynamique de les mettre en politique de deuxième rang, je dirais. Donc voilà.
C'est important déjà, effectivement.
Après, quels en sera les moyens dédiés, rendez-vous effectivement au mois de mars pour vous le dire. Toujours est-il qu'il y a effectivement la capacité du département à accompagner ces politiques, mais aussi la capacité du département à accompagner les acteurs, les partenaires, dans ce que moi j'appellerais la culture de la ressource. Mmh. Et qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des fondations.
Bien
évidemment sont là pour accompagner des projets solidaires qui sont autour de cette orientation, hein, culture et autonomie. Donc nous avons déjà répondu à des appels à projets de la Fondation Caisse d'Épargne, par exemple. Il y en a d'autres.
Oui, je crois qu'elle était partenaire d'ailleurs, peut-être, de votre journée.
Partenaire essentiel, qui nous a permis de mener des actions culturelles et qui a été cofinanceur effectivement de cette journée. Donc voilà, ce que nous souhaitons, c'est faire en sorte que ce niveau de politique soit un niveau suffisant pour qu'ils permettent de développer une politique ambitieuse. En même temps, aujourd'hui, il n'y a pas que le financement qui est important. Il y a la rencontre, l'innovation, la création. Il y a un champ qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, qui est quand même les nouvelles technologies.
Bien sûr.
Comment on facilite l'accès à la culture, hein, comment on peut être effectivement dans une visite virtuelle d'un musée, comment on peut être dans une lecture publique avec peut-être un amplifone quand on a des difficultés à entendre, et puis tout ce qui est autour de l'accessibilité, tout ce qui est autour des visites virtuelles, voilà. Ce que j'ai déjà évoqué. Donc c'est vrai qu'il y a l'outillage, donc les liseuses par exemple dans les EHPAD, parmi certaines actions et bien d'autres encore à développer.
Donc, est-ce que ça veut dire aussi que quelque part, vu ces contextes nationaux et territoriaux, ça demande peut-être aussi à revisiter, à réinventer des manières de fonctionner, même jusqu'à l'économique?
Mais on est en perpétuelle interrogation. Je veux dire, on ne peut pas se satisfaire à un moment donné d'avoir développé des politiques et puis de s'en suffire. Nous sommes toujours effectivement en quête, à la rencontre effectivement de voir ce qui se passe dans d'autres départements, au niveau régional, au niveau national, et puis à l'étranger, parce qu'il y a aussi des expériences intéressantes qui sont menées. Donc voilà, nous dépassons nos frontières et nous essayons d'enrichir notre Ardèche de ce que nous trouvons à l'extérieur.
Merci en tout cas à l'une et à l'autre, Sabine Dauchat et Martine Finiel. Nous arrivons au terme du premier volet de cette série de 3 émissions spéciales de résonance consacrée à culture et autonomie en Ardèche. La présente émission est enregistrée le 22 février dernier dans les locaux justement du Conseil départemental d'Ardèche. Donc merci en tout cas de nous avoir facilité justement à vous, Martine Finiel, Olivier Peverelli, même s'il n'a pu nous rejoindre, l'organisation de cette émission, et puis bien sûr à l'équipe de la Direction de la Culture et à vous, Sabine Dauchat, de nous avoir permis de réaliser cette émission. Merci aussi pour votre présence et vos témoignages. J'étais accompagné aujourd'hui par Nicolas Galliot, la régie générale, et de Simon Deborne à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h pour podcaster et réécouter quand vous voulez, où vous voulez, la présente émission. Rendez-vous sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, la radio qui accueille cette émission, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Très belle journée sur Radio B.